La science CQFD, Natacha Triou.
Le 4 septembre dernier, l'IPBES a publié la première évaluation mondiale sur les espèces exotiques envahissantes. Quelle est l'ampleur de ce fléau à l'échelle planétaire ? Le frelon asiatique, le moustique tigre, mais aussi le chat, le rat. En tout, 3500 espèces sont devenues envahissantes et pullulent. Leur impact sur la biodiversité est énorme. Elles sont impliquées sur plus de la moitié des extinctions d'espèces dans le monde. Des 5 causes de l'effondrement du vivant, c'est peut-être l'une des moins comprises et des moins médiatisées de toutes. L'IPBES, le GIEC de la biodiversité, avait déjà sonné l'alarme. En 2019, il la sonne à nouveau aujourd'hui. Espèces exotiques envahissantes, une menace grandeur nature. Céline Bellard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse CNRS en écologie. Bonjour Philippe Grandcola.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint scientifique de l'Institut Écologie Environnement du CNRS et vous avez coordonné le livre « Tout comprendre » ou presque sur la biodiversité. Merci à vous deux d'être là avec nous en direct sur notre antenne sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Chaque jour, on vous poste de nombreuses ressources complémentaires pour enrichir votre écoute. C'est sur notre fil @sciencesqfd. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'espèces exotiques envahissantes? Comment impactent-elles les écosystèmes et comment prévenir leur prolifération? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence par le portrait de l'une de ces espèces les plus emblématiques en France. C'est notre archive du jour.
Nous sommes envahis, figurez-vous. Oui, un frelon asiatique prolifère dans nos contrées, un gros qui fait peur et qui surtout représente une vraie menace pour les abeilles et donc pour les apiculteurs. Le problème ne date pas d'aujourd'hui, mais il fallait agir. Mieux vaut tard que jamais, Sophie Parmentier.
Vespa velutina, c'est son nom scientifique, est un redoutable frelon asiatique débarqué par hasard en Gironde il y a 4 ans, à bord d'un avion qui n'aurait dû transporter normalement que des poteries chinoises. 4 ans plus tard, l'animal à l'abdomen brun, beaucoup plus foncé que le frelon européen, avec une tête orangée, des pattes jaunes et un vol ultra rapide. 4 ans plus tard, l'insecte a proliféré de manière impressionnante, s'inquiète Henri Clément, le président de l'Union nationale des apiculteurs français.
Aujourd'hui, il occupe le tiers du territoire. C'est quand même énorme. En 4 ans, le tiers du territoire, il est répertorié en Languedoc-Roussillon, en Charente, dans la Creuse et dans d'autres départements. Donc d'ici 1 à 2 ans, il aura colonisé toute la France. Il ne s'arrêtera pas aux frontières. Ça devient vraiment catastrophique pour les apiculteurs, mais pas uniquement pour les apiculteurs.
Avec ses grosses mandibules, le frelon asiatique s'attaque aussi aux arbres, notamment aux framboisiers et aux pommiers, dont il grignote les fruits, qui deviennent ensuite invendables sur les marchés.
Une archive sur l'invasion du frelon asiatique, c'était en 2009. Céline Bellard, le problème est toujours d'actualité.
Oui, effectivement, ce qu'on voit, c'est que le frelon asiatique, maintenant, c'était assez prédictif, c'est que maintenant, il est presque sur toute la France. Et en fait, l'impact, il n'est pas uniquement pour les apiculteurs, c'est un impact pour la biodiversité, puisque le frelon asiatique, c'est un prédateur. Et d'autres types d'insectes, mais je pense que Philippe, il pourra plus le développer.
Philippe Grandcola.
Oui, effectivement, on est aujourd'hui devant une invasion qui a réussi, malheureusement. On n'a pas réussi à la prévenir, puisqu'elle était assez inattendue. Et puis, quand on a détecté les premières populations de frelons asiatiques en France, il n'y a pas eu d'action suffisamment rapide pour les éliminer. Et en fait, l'invasion suit son cours. Et depuis, effectivement, les dégâts sont toujours les mêmes. Bien sûr, il s'attaque à des ruches, puisqu'il aime les insectes sociaux, les abeilles et les ruches. C'est une grosse ressource, plusieurs dizaines de milliers d'individus qui se trouvent au même endroit. Donc pour les frelons, c'est une aubaine. Et pour les apiculteurs, c'est un problème puisqu'ils doivent arriver finalement à défendre leurs ruches par des procédés divers et variés. Et arriver à détruire les frelons, c'est pas détruire des nids qui peuvent comporter des milliers d'individus, c'est essayer d'empêcher que les femelles fondatrices construisent ces nids et puis surtout leur donner du fil à retordre quand elles essayent d'attraper les abeilles à l'entrée de la ruche notamment.
Le frelon, le frelon dit asiatique, l'une de ces espèces exotiques envahissantes qui sont donc l'une des 5 causes du déclin de la biodiversité au même titre que la pollution, le changement climatique, la disparition de l'habitat et la surexploitation. C'était l'une des conclusions du rapport de l'IPBES paru en 2019. 4 ans plus tard, ce rapport qui vient de paraître, hein, c'est la première évaluation mondiale sur les espèces exotiques envahissantes.
Oui, effectivement, hein, parce que l'IPBES, c'est une plateforme internationale, comme on dit, intergouvernementale, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus de 140 pays qui ont accepté de participer à cette plateforme et qui délèguent donc des représentants de gouvernement qui acceptent certains sujets d'évaluation collective que les scientifiques proposent. Donc les experts scientifiques, eux, sont parfaitement indépendants et ils travaillent, comme c'est le cas par exemple sur les espèces exotiques envahissantes, pendant 4 ans. Donc là, on avait 89 experts appartenant à plus de 40 pays, hein, qui ont épluché 13 000 articles scientifiques, donc une quantité de littérature faramineuse, hein, et qui ont produit un rapport de plusieurs milliers de pages, dont le résumé pour décideurs, vraiment la substantifique moelle, a été publié effectivement le 4 septembre dernier. Donc là, on a vraiment l'état des connaissances dans tout ce qui est consensuel, avéré, et puis il est signalé également les domaines dans lesquels on a des lacunes, des carences, de manière que les États, s'ils le veulent, puissent se saisir de cette évaluation et prendre les mesures qui s'imposent, pas seulement en termes de correction de problèmes, mais également en termes de quelles recherches scientifiques on doit faire dans le futur pour gérer un peu mieux la situation.
Oui, c'est comme pour le GIEC. Hein. L'IPBES fait une compilation d'études, comme vous dites, hein, c'est le principe des méta-analyses. Et grâce à ça, on peut en sortir un consensus scientifique.
Oui, tout à fait. Moi, je trouve vraiment que c'est fondamental aujourd'hui, on le voit, on est dans une crise du climat, une crise de la biodiversité, globalement une crise de l'environnement, et là le dialogue entre la science et la société, il doit se faire au quotidien, tous les jours, avec de multiples acteurs, interlocuteurs, et évidemment si on n'a pas ce résumé de toute la connaissance, le dialogue est difficile sinon impossible, et on le voit aujourd'hui, ce dialogue il suscite déjà souvent des clivages, des interrogations. Là, avec ces rapports, qu'il s'agisse de ceux du GIEC ou de l'IPBES, on a vraiment une matière à discussion qui est avérée.
Céline Mella.
Oui, alors effectivement, ce rapport, en fait, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir faire le lien entre les décideurs et les scientifiques. Sur les espèces exotiques envahissantes, c'est vraiment une première. C'est un rapport, comme tu l'as dit, de plusieurs milliers de pages qui vraiment donne un état des lieux à la fois du nombre d'espèces, où elles se trouvent, quelles sont nos lacunes, leurs impacts, les solutions. Et il est vraiment à destination des décideurs pour les aider à la décision, mais aussi le grand public peut tout à fait lire ces résumés pour les décideurs parce que, en fait, il est très informatif et très bien écrit aussi pour le grand public.
Oui, c'est une plateforme qui permet bien, hein, le dialogue entre science et société. Mais pourquoi parmi les cinq causes de l'effondrement de la biodiversité, pourquoi l'IPBES s'est intéressé plus spécifiquement aux espèces exotiques envahissantes ?
Alors je pense que simplement l'éventail des études à mener sur la biodiversité, la crise de la biodiversité, il est énorme. Hein. On a effectivement cinq causes qui sont toutes d'importance considérable, surtout qu'elles agissent souvent, malheureusement, en synergie ou avec des intensités un petit peu différentes selon les endroits, mais toujours très importantes. Et effectivement, tout le monde a conscience, je pense, de la conversion des habitats, la déforestation, la suppression des zones humides aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été correctement synthétisé par l'IPBES et dont tout le monde a conscience. De la même manière pour les pollutions. C'est pas pour autant, évidemment, que les mesures adéquates sont prises à tous les niveaux de décision dans tous les pays, bien évidemment, bien au contraire. On a également très conscience de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes. On le voit aujourd'hui avec les aléas, les feux de forêt, etc. Par contre, je pense que la question des espèces exotiques envahissantes, finalement, est vue comme quelque chose d'un peu plus marginal, un petit peu comme, finalement, il s'agirait d'une sorte de réensauvagement avec des espèces qui, certes, sont transportées, mais finalement qui finissent par s'acclimater et qui posent pas tant de problèmes que ça. Et ça, c'est une vision complètement trompeuse de la situation. C'est peut-être le cas pour quelques-unes des espèces sur les 35 000 espèces exotiques dont on a effectivement constaté qu'elles avaient été transportées soit intentionnellement, soit non intentionnellement par les humains en dehors de l'horaire de répartition. Hein. Sur les 35 000 en question, il y en a quand même 3 500 qui posent des problèmes considérables aux humains, au reste de la biodiversité. Et donc, il était important que l'IPBES, là, sur ce sujet-là, qui peut paraître un peu plus marginal et qui ne l'est pas, fasse vraiment un constat de la question.
Voilà, 3 500 espèces problématiques. On va pouvoir un peu définir ensemble, justement, ce problème. Céline Bellard, qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante ?
Alors, une espèce exotique envahissante, c'est effectivement une espèce qui est introduite par l'homme, de manière intentionnelle ou non, en dehors de son aire d'origine. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une espèce exotique. Et elle devient finalement envahissante lorsqu'on considère et lorsqu'on documente un impact écologique sur la communauté envahie. Et effectivement, sur les 35 000 espèces qui ont été documentées par l'IPBES, c'est 3 500 qui sont considérées comme envahissantes, donc qui ont un impact écologique majeur sur leur environnement.
Mais que faut-il faire pour faire partie du club des espèces exotiques envahissantes? Enfin, quels sont les critères de sélection, entre guillemets?
Et d'abord, d'être sélectionné par l'homme, puisqu'elles sont transportées par l'homme. Quand c'est de manière intentionnelle, ça peut être parce que, pour les plantes, c'est des plantes qui peuvent être ornementales. Il y a pas mal de plantes qui ont été introduites dans des jardins, finalement, de particuliers ou des jardins botaniques, et qui ensuite vont se retrouver dans la nature. Et c'est le cas, par exemple, du rhododendron pontique qu'on retrouve en France ou de certains arbres également dans les îles. Et par exemple, ces espèces exotiques envahissantes, quand elles sont introduites de manière intentionnelle, ça peut être aussi pour d'autres raisons, pour la pêche, pour la chasse. On a beaucoup d'oiseaux qui ont été introduits dans les îles, parce qu'on pouvait les chasser, qu'on pouvait les manger, donc historiquement. Maintenant, on a plutôt des introductions qui sont pour des objectifs d'animaux domestiques, etc.
Philippe Grand-Cola, est-ce qu'il existe un portrait type d'une espèce exotique envahissante?
Alors, oui et non.
Il y a des traits biologiques qu'on connaît.
Oui, il y a des traits biologiques qu'on connaît. Effectivement, il faut que, comme l'a dit Céline, il faut que cette espèce, finalement, ait de bonnes relations, malheureusement, avec l'homme, mais pas forcément des relations volontaires. Il faut finalement qu'elle puisse, quelque part, se glisser à travers les trous de la raquette dans les écosystèmes. Donc, finalement, il faut pas la voir comme une espèce qui serait particulièrement résistante, blindée, avec une dynamique de population extraordinaire. C'est plutôt une espèce qui va, finalement, tirer parti d'opportunités qui lui sont offertes par les humains lors de son transport en dehors de son aire. Donc finalement, je dirais que l'espèce envahissante, elle dépend autant de l'endroit où elle a été transportée que de ses propres caractéristiques. Et c'est là toute la question, c'est là tout le problème, c'est que l'espèce envahissante est aussi dépendante de notre gestion des écosystèmes, pas seulement des transports accidentels ou intentionnels que l'on a pu mettre en place.
Céline Ménard, parmi les traits biologiques qu'on connaît, on peut aussi parler, ce sont souvent des espèces généralistes qui mangent de tout, omnivores, par rapport justement à des espèces qui, elles, sont spécialistes.
Oui, effectivement, ce qu'on peut identifier dans les espèces qui sont plutôt exotiques envahissantes ou même exotiques, sont capables de s'établir, c'est qu'en général, ce sont des espèces opportunistes. Donc, c'est associé à un certain nombre de traits. Elles ont des taux de reproduction plus élevés. Elles sont plutôt des masses également qui vont être plus élevées. Par exemple, pour les oiseaux, on va avoir aussi des capacités de migration plus importantes. Pareil pour les plantes. Et donc, en fait, cette tolérance aux environnements perturbés, à l'établissement assez important avec des taux de reproduction, des opportunismes en termes de régime alimentaire ou d'habitat également, sont des espèces qui ne vont pas du tout être inféodées à un seul type d'habitat, au contraire de certaines espèces natives. Ça va les favoriser en fait dans les nouveaux habitats où elles vont arriver.
Philippe Grand-Cola, ce sont aussi des espèces qui sont très compétitrices sur d'autres.
Oui, effectivement, mais encore une fois, cette question d'être compétiteur par rapport à d'autres espèces, ça dépend aussi des autres espèces en présence. Donc, là encore, je pense qu'il faut pas diaboliser ou caricaturer l'espèce exotique, comme vient de le dire Céline. Évidemment, en règle générale, ce sont pas des espèces hyper spécialisées et qui se reproduisent très peu, parce que bien entendu, elles n'auraient aucun succès, quel que soit l'aire dans lequel elles sont introduites. Mais à contrario, il faut pas les voir comme des sortes de super espèces. Ce sont, à l'origine, des espèces qui vivent dans des écosystèmes où elles ont des relations biologiques tout à fait classique avec les autres espèces qui existent à cet endroit. Et le problème vient simplement de leur transplantation. Et là, elles se trouvent momentanément dans une situation où la compétition ou les relations d'antagonisme avec des prédateurs, des parasites, sont beaucoup plus faibles.
Bon, on comprend bien là qu'il n'y a pas de portrait robot, que les espèces exotiques envahissantes, c'est une myriade d'espèces possibles. On peut peut-être, encore pour bien comprendre de quoi on parle, on a donné quelques exemples, mais on peut peut-être en donner d'autres, Philippe Grand-Cola.
Oui, alors bien sûr, ceux qui viennent tout de suite présents à l'esprit, parce qu'on en parle beaucoup d'une manière générale, le frelon asiatique, le moustique tigre, parce qu'en particulier, ils affectent l'homme directement. Mais il y a effectivement des plantes qui sont un peu plus discrètes. Par exemple, la jussie rampante, c'est une très jolie plante qu'on a mis dans des bassins pour faire de la décoration. C'est une plante d'eau douce et aujourd'hui elle s'est échappée et elle encombre des milieux d'eau douce au point finalement de supprimer à certains endroits toute autre vie à la surface de ces bassins. On a aussi la renouée du Japon j'ai pu la voir encore dans un joli jardin de ville il y a quelques décennies en Allemagne, et aujourd'hui effectivement on la trouve le long des voies de chemin de fer ou sur un grand nombre de talus où elle supplante, ou sur des berges de ruisseaux ou de rivières où elles supplantent absolument toutes les autres espèces. Mais on pourrait multiplier ces exemples par milliers, puisqu'il y a plus de 3000 espèces. Moi, je voudrais juste citer aussi un champignon qui est un parasite de grenouille, qui a été transporté par deux grenouilles envahissantes, notamment, un xénope et puis une grenouille dite taureau. Et ce champignon, en fait, malheureusement, il a la capacité à parasiter beaucoup de grenouilles différentes. Et avec ces grenouilles envahissantes, il est arrivé, il a parasité les grenouilles locales. Et donc, les grenouilles envahissantes, en l'occurrence, n'ont pas été seulement un problème de compétition avec les grenouilles locales, ce qui est le cas, mais ils ont également amené une maladie qui a été transmise aux grenouilles locales, qui sont moins résistantes que ces grenouilles envahissantes par rapport à ce champignon. Et aujourd'hui, malheureusement, à cause de ce champignon, en fait, les amphibiens sont un des groupes d'organismes dans le monde qui est les plus touchés par la crise de la biodiversité. Donc il y a beaucoup de grenouilles tout à fait sauvages et non envahissantes aujourd'hui qui sont dans des situations dramatiques dans énormément de régions écologiques du monde.
Et le problème avec ces espèces envahissantes, c'est qu'il y en a plein de différentes. C'est donc assez difficile de mettre un visage derrière ce problème d'invasion biologique. Quels sont les impacts de ces espèces sur leur nouvel environnement et quels sont les processus d'une invasion écologique? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
En direct sur France Culture, avec Céline Bellard et Philippe Grandcola, nous parlons d'espèces exotiques envahissantes, une menace pour la biodiversité mondiale. Le dernier rapport de l'IPBES s'alerte de ce problème. Et ce qui alerte l'IPBES, c'est que ces espèces et leurs impacts augmentent rapidement, que si rien n'est fait, cela va continuer d'augmenter. Comment ça s'explique, ça, cet emballement, Céline Bellard?
Alors en fait, depuis l'arrivée des premiers colons, il y a eu une augmentation des espèces exotiques envahissantes, notamment dans les îles. Mais ce qu'on voit, c'est sûr, c'est qu'avec l'essor du commerce, du tourisme et des déplacements humains de manière générale, on a vraiment une accélération énorme des espèces exotiques envahissantes. Et comme Philippe le disait, en plus, les habitats qui sont déjà soumis à des pressions intenses, ils sont aussi moins résilients finalement à l'arrivée de ces espèces exotiques. Et donc, ces espèces exotiques qui sont des espèces au plus opportunistes, elles sont capables de s'établir et de proliférer, ce qui n'était pas le cas en fait avant dans des habitats qui étaient plutôt protégés et riches aussi en espèces natives.
Philippe Grandcola.
Oui, 1000% d'augmentation des transports aériens et maritimes depuis 50 ans. Donc je pense que ce seul chiffre aide à comprendre. Et à la fois dans ce transport, il y a de l'intentionnel, bien sûr. Quand on amène, comme disait Céline, des plantes ornementales ou des animaux récréatifs, eh bien évidemment, on amène avec eux un certain nombre d'espèces qui sont pas désirées. De la même manière, quand on transporte de la nourriture, on peut amener des parasites, des micro-organismes divers et variés. Quand on amène, par exemple, des semences, on peut amener au milieu de ces semences, si elles ne sont pas triées correctement, un certain nombre de plantes dites adventices, autrement dit les mauvaises herbes de nos grands-parents. Il y a beaucoup de manières d'apporter des espèces en dehors de l'horaire de répartition, mais évidemment, l'augmentation du commerce international a été vraiment le premier moteur de cette extension. Et puis après, comme le disait Céline, il y a l'état dans lequel se trouvent les écosystèmes. Quand on fragmente une forêt en milliers de petits morceaux avec plein de voies de propagation au milieu de cette forêt, bien évidemment, les espèces exotiques là trouvent des avenues pour se répandre et pour envahir les milieux dans lesquels elles ont finalement moins de compétition à envisager.
Alors si on continue comme ça, si on ne lutte pas contre ce phénomène, que va-t-il se passer, Céline Bellard?
En fait, c'est juste que ce qu'on observe déjà aujourd'hui va continuer à augmenter. Ce qu'on voit effectivement avec la renouée du Japon qui est présente presque partout, avec le frelon asiatique qui a été capable de s'établir sur la France en quelques années. Et en fait, vu qu'on a eu énormément de nouvelles introductions d'espèces chaque année, ces espèces vont continuer à proliférer et du coup, les impacts vont se multiplier. On a, en octobre dernier, il y a à peine un an, l'espèce de fourmi Wasmania rorpunctata qui a été détectée pour la première fois près de Toulon. Et c'est une fourmi qui est capable de complètement envahir son écosystème, enlever toutes les espèces de fourmis natives locales, d'avoir un impact sur les communautés d'oiseaux, puisque c'est une prédatrice également, s'attaquer aux yeux des espèces. Et il me semble que la semaine dernière, aussi, une des fourmis les plus envahissantes au monde, qui fait partie des 100 pires espèces exotiques envahissantes au monde, a été détectée en Europe pour la première fois en Sicile. Et on sait également que cette espèce, elle a un impact aux États-Unis qui est colossal, avec plusieurs milliards chaque année, parce qu'elle s'attaque aux l'agriculture de fruits, mais également de l'agriculture en général. Donc à partir du moment où on sait que ces espèces exotiques, elles ont un impact et qu'elles arrivent, il faut réagir très vite pour éviter que justement ces impacts continuent d'augmenter, puisqu'en plus c'est compliqué de les éradiquer une fois qu'elles sont établies et qu'elles se sont propagées dans l'écosystème.
Et parmi les impacts, Philippe Grandcola, on parlait tout à l'heure des amphibiens et des grenouilles qui déclinent à cause de ces espèces. Voilà à quel point ces espèces-là sont impliquées dans les extinctions.
Oui, effectivement, hein, l'IBES, le rapport de l'IPBES l'a souligné, il y a 60% des extinctions dans lesquelles les espèces exotiques envahissantes sont impliquées.
Alors, c'est énorme. 60%.
C'est vrai que c'est énorme. Alors, en particulier dans les îles, puisque les écosystèmes dans les îles sont particulièrement fragiles. Imaginez les oiseaux aptères qui ont évolué dans une île faute de grands prédateurs, et puis on amène là des rats et des chats. Évidemment, ça ne peut que se terminer très mal. Mais il y a bien d'autres endroits, y compris sur les continents ou dans les océans, puisque les espèces exotiques envahissantes, on en trouve aussi dans les milieux marins, évidemment, où la compétition entre les exotiques et puis les locales, en fait, se passe très mal. Il faut rappeler que l'IPBES a chiffré à peu près à 400 milliards de dollars par an, le coût actuel de ces espèces envahissantes. Et ce coût, d'après l'IPBES, est également multiplié par 4 tous les 10 ans. Donc on est vraiment dans une situation d'emballement. Effectivement, on a une sorte de dette à l'invasion. Ce sont des situations dynamiques. Il y a une dynamique de population de ces espèces. Non seulement on en a 200 nouvelles, comme celle que vient de citer Céline, qui arrivent chaque année dans un endroit donné. Et en plus, elles prolifèrent localement, quelquefois à retardement. Le ragondin ou le rat musqué, par exemple, en France métropolitaine, ils sont arrivés fin 19e, début 20e, à la suite d'échappements d'élevage pour la fourrure ou pour d'autres opportunités. On est encore en train de lutter contre une invasion aujourd'hui qui, finalement, a couvert l'ensemble du territoire métropolitain.
Et vous dites 400 milliards de dollars par an sur le coût des espèces exotiques invasives, multiplié par 4 tous les 10 ans, et encore, on pense que ce coût est considéré comme sous-estimé. Parce qu'en effet, les impacts peuvent être très très importants et multiples, Céline Bellard.
Oui, en fait, les impacts d'espèces exotiques envahissantes, ça touche presque tous les domaines, tous les compartiments de la biodiversité, mais aussi des compartiments qui ne sont pas écologiques, également sanitaires et liés à l'économie. D'un point de vue écologique, c'est différents types d'impacts. Donc, il y a effectivement la prédation dans les îles, qui a été vraiment un mécanisme d'extinction majeur pour les oiseaux. Dans les îles océaniques, mais on a également la compétition des espèces, qui est aussi un des impacts importants, la pollution génétique. Quand les espèces vont s'hybrider avec les espèces locales, on va perdre en fait la diversité génétique des espèces locales. Et donc tous ces impacts mélangés, qui peuvent sembler assez diffus au total, en fait, ça montre qu'on a un impact colossal des invasions biologiques sur la biodiversité.
Oui, on assiste à une homogénéisation de la nature d'une certaine façon. Vous dites la majorité des extinctions, 90%, ont lieu dans les îles. Pourquoi les îles sont-elles particulièrement touchées ?
Alors les îles, en fait, c'est vraiment des écosystèmes qui sont très particuliers d'un point de vue évolutif, qui sont en général moins riches en termes de nombre d'espèces, par exemple, mais qui vont avoir des caractéristiques qui les rendent particulièrement vulnérables aux invasions biologiques. Ce qu'on appelle le syndrome d'insularité, en fait, sont des espèces qui vont avoir globalement des densités de population plus faibles, qui vont aussi, d'un point de vue comportemental, en fait, ils vont pas avoir l'habitude d'avoir évolué avec des prédateurs, et donc ils vont pas du tout avoir développé de mécanismes de défense. Ce qui fait que, effectivement, quand on a des rats invasifs ou des chats et qu'on a des oiseaux qui nichent au niveau du sol, qui ont perdu la faculté de voler, eh ben, ces oiseaux sont vraiment des victimes un peu naïves de leurs nouveaux prédateurs.
Oui, on parle de syndrome de naïveté.
Oui, tout à fait, la naïveté insulaire dans la biodiversité. Par exemple, on peut citer quelques cas. En Nouvelle-Calédonie, pratiquement pas de mammifères, uniquement des reptiles, des lézards, cincidés ou geckos. Et puis des oiseaux, effectivement, comme par exemple le cagou, qui est un oiseau qui fait des zones de reproduction à terre. Et là, effectivement, qui est directement impacté par des petits mammifères introduits par l'homme, comme le rat ou comme le chat. Et effectivement, ce genre de situation est assez caricatural. Alors, il ne faudrait pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt, et que pas à cause de ces caricatures de situations dans des écosystèmes réduits et particuliers, on pense que bon, sur un continent, tout va bien. Et là, les espèces exotiques, finalement, ont une importance moindre. Les épisodes, par exemple, de démoustication récente en région parisienne, Paris 13e et Colombes, peuvent aider à penser le contraire. Hein. On se rend compte qu'aujourd'hui, en France, là, une maladie causée par un arbovirus, la dengue, émerge à cause de ce moustique exotique qui a été transporté non intentionnellement et voilà qui survit aussi malheureusement grâce au réchauffement climatique et à une fréquence moins grande d'hivers froids. Là, on se trouve dans une situation où on a le moustique qui est arrivé et qui a survécu grâce à un autre problème environnemental, le changement climatique, et qui est en situation de nous transmettre des maladies très problématiques. Donc là, effectivement, on comprend très vite que le coût d'une telle invasion, quand on essaye de le chiffrer, peut vite se révéler astronomique.
Mais à propos du milieu urbain, justement, vous évoquez les moustiques en ville. À Paris, on l'a vu aussi, les moineaux, enfin, qu'en est-il de ces espèces exotiques envahissantes et leur impact sur les villes? Céline Bellard ou Philippe Grand-Collard, je ne veux pas vous poser une colle, mais par exemple, on dit aussi, on se demandait avec l'équipe, les perruches qu'on voit, envahissantes ou pas envahissantes.
Oui, alors c'est vrai que les villes, par définition, sont des milieux dans lesquels il y a beaucoup d'humains et beaucoup de transports et de transit.
La première espèce exotique envahissante.
Tout à fait, donc on se trouve dans une situation qui est, par définition, passablement artificielle, donc toutes les espèces ornementales, tous les transports commerciaux, etc., convergent vers les zones urbaines. Donc évidemment, c'est là où on risque de voir des émergences se passer. Alors cela dit, c'est là encore, la ville, c'est une sorte d'écosystème, et un écosystème un peu particulier. Donc d'un côté, des espèces qui auraient besoin d'une étendue particulière de biodiversité ou autre vont pas réussir à s'implanter. Une espèce ripicole, par exemple, qui vit sur le bord, dans la végétation, au bord des rivières, aura du mal à s'implanter le long de la Seine, de la Garonne ou du Rhône, peut-être la Loire et encore, en milieu urbain. Par contre, effectivement, des espèces qui aiment bien les milieux bâtis, par exemple ces fameux moustiques envahissants, aujourd'hui ne sont pas des moustiques de marécages ou de zones humides, ce sont des moustiques dont les larves aquatiques, comme toutes les larves de moustiques, se développent finalement dans des petites flaques, dans des toutes petites accumulations d'eau, et qui sont finalement liées à l'urbanisation, liées à la bétonisation. Donc on est vraiment dans des situations particulières. L'écosystème urbain, il génère des niches très particulières, alors qui sont pas forcément beaucoup plus favorables à l'invasion, mais qui nous posent souci parce que on est dans une zone d'habitation humaine très dense, en particulier en Europe, et là les problèmes, évidemment, aussi simples soient-ils, deviennent cruciaux.
Et sur les impacts sur les écosystèmes, Camille Bellard, on peut aussi parler de ces espèces qui sont impliquées dans la modification des sols, la composition, la structure des sols peuvent être modifiées, mais aussi les eaux.
Oui, effectivement. Enfin, il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes qui se retrouvent en fait dans l'eau, qui se développent et qui couvrent en fait complètement les zones aquatiques. Elles étouffent la végétation environnante. Elles empêchent en fait la luminosité d'arriver dans les strates inférieures et elles vont même changer la composition chimique en fait de ces eaux avec les phénomènes d'eutrophisation ensuite. Et ce qu'on voit aussi pour des espèces terrestres, c'est qu'elles ont également le même type d'impact, c'est-à-dire que on a l'exemple de Myconia, qui est une espèce qu'on retrouve dans les écosystèmes insulaires français. Donc c'est un arbre qui a des feuilles en fait extrêmement grandes et il est capable de couper la luminosité des autres strates de la végétation, d'empêcher les populations autochtones locales de végétation de se développer. Et également, il va changer en fait la structure du sol avec des écoulements qui vont être beaucoup plus importants et de l'effondrement en fait des sols qu'on va pas avoir avec la végétation locale, qui est un système racinaire en fait, qui permet vraiment le maintien des sols.
Le Myconia, qu'on appelle aussi le cancer vert, qui envahit Tahiti, qui arrive en Guadeloupe. On parle, le sol, l'eau, les villes, les îles, mais même les zones protégées pour la conservation de la nature sont touchées, Philippe Grand-Collard.
Oui, effectivement, elles ne sont pas indemnes, tout simplement, parce que les humains y circulent également. Et donc, il y a effectivement une capacité des humains à transporter dans tous les milieux les espèces qui viennent d'ailleurs, tout simplement parce qu'elles viennent par des moyens parfois assez détournés. Par exemple, les petites fourmis, certaines des petites fourmis envahissantes se trouvent, par exemple, sous des fûts de carburant. Vous savez, ces gros fûts en acier de 200 litres là, qu'on transporte dans des camions ou dans des bateaux, et puis qu'on amène in situ pour ravitailler des véhicules ou des hélicoptères hélicoptères logistiques dans des milieux protégés. Et en tournant le fût par terre pour le déplacer, ben, on accroche de la terre sous la rainure qui rigidifie le socle du fût. Et dans cette terre peuvent se trouver, par exemple, ces fameuses petites fourmis envahissantes. Donc, quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. En fait, par la présence humaine, on de manière systématique, avec des transports importants, même avec de bonnes pratiques, on arrive malgré tout à importer des espèces.
Alors, quels sont les différents moyens pour lutter contre ces invasions? Restez avec nous, on a des solutions. Baba Thornton, I smell a rat, sur France Culture, car nous parlons de rats, mais aussi de chats, de frelons asiatiques, de moustiques, tiques, d'eucalyptus. Nous parlons d'espèces exotiques envahissantes tout au long de cette heure avec nos deux invités du jour, avec Céline Bellard, chercheuse CNRS en écologie, et Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint scientifique de l'Institut Écologie Environnement du CNRS. Parmi les espèces exotiques envahissantes qui gagnent du terrain en France, il existe une espèce de papillon venu d'Afrique qui colonise depuis quelques années le sud du pays. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Natacha.
Pour le reportage du jour, vous êtes allée à l'Institut d'écologie et sciences environnementales de Sorbonne Université pour voir de plus près ces spécimens.
Oui, Spodoptera littoralis ou la noctuelle du coton, c'est le nom de ce papillon de nuit qui progresse en France au point de s'y installer définitivement. Le problème est qu'il est polyphage et ravageur et cause des dégâts sur de nombreuses cultures. Son expansion jusqu'ici serait liée à deux causes, l'action de certains polluants et la hausse des températures. Alors, pour étudier ce phénomène en vue de proposer des solutions, David Ciossa, professeur au département d'écologie sensorielle, mène des expériences en neurophysiologie et analyse de vol sur la paillasse.
Donc là, du coup, ici, on est au cœur de l'élevage, en fait, du laboratoire.
On les place dans des frigos ?
Alors, c'est des étuves, effectivement, qui nous permettent de recréer des conditions de température, d'humidité, qui permettent de les élever. Donc, c'est très pratique, forcément, pour
l'odeur,
avoir
là.
Les animaux. Voilà, une odeur caractéristique, effectivement. Et là, vous voyez un certain nombre de...
On les place dans des boîtes
Exactement, dans des boîtes d'élevage. Donc là, c'est des boîtes classiques en plastique avec ce qu'on appelle de la vermiculite. C'est une molécule un peu, un substrat un peu inerte qui recrée un peu comme s'il y avait une sorte de sol. Voilà, les animaux comme ça, ils ont un peu d'humidité, ils peuvent s'enfouir et se protéger.
Il faut le préciser, ils sont à l'état larvaire.
Là, ils sont à l'état larvaire. Donc là, vous avez un sixième stade larvaire. Donc voilà, c'est des larves qui font à peu près 2 à 3 cm de long et 1 demi-centimètre de circonférence.
Ils sont très noirs.
Et ils sont très noirs. Ils vont bientôt chrysalider. Donc on voit les animaux là qui sont sur le dos. En fait, là, c'est pas qu'ils sont morts, mais ils vont progressivement se compacter, se déshydrater, se transformer en cocon et devenir ensuite un papillon.
Donc on étudie beaucoup des modèles papillons, donc le principal c'est Spodoptera littoralis, la noctuelle du coton, d'origine d'Afrique en fait. Et d'ailleurs, Spodoptera littoralis était jusqu'en 2020 considéré comme une espèce de quarantaine invasive. Il a été déclassé, en fait aujourd'hui il est présent en France, dans le sud de la France. Donc on ne le considère plus comme étant invasif, mais bien presque français.
Mais quels sont les critères qui font passer une espèce invasive à locale ou presque endémique ?
C'est l'installation de l'espèce, en fait, de la population. C'est-à-dire qu'on retrouve de façon régulière les animaux, preuve qu'ils font un cycle de vie complet sur le territoire. Ensuite, pour spécifiquement celle-ci, en fait, à partir du moment où vous êtes implanté dans une zone géographique donnée, et que vous y plaisez, et ces espèces se plaisent bien quand il fait chaud, quand la température est plutôt douce et agréable, et surtout les hivers pas trop froids, pas trop rigoureux. Du coup, j'arrive à faire un cycle de vie complet, j'arrive à passer des hivers. C'est un constat assez général, même pour des espèces endémiques françaises. Les hivers ne sont plus suffisamment froids. Il y a quand même une forme de filtre et de mortalité qui apparaît durant l'hiver, qui n'apparaît plus tant que ça, et qui fait que du coup, on a des espèces qui persistent et qui s'implantent définitivement.
Qui persistent, qui s'implantent et qui ont des impacts délétères peut-être pour les écosystèmes et d'autres espèces.
Oui.
En dehors des cultures.
Oui, tout à fait. En tout cas, elles sont suivies et étudiées pour. Ensuite, au début, quand elles s'implantent sur un territoire, elles sont à des niveaux de population où c'est pas encore critique. Par exemple, nous, la noctuelle que nous avons, c'est la noctuelle du coton. En fait, elle est polyphage, donc elle attaque plus de 80 espèces de plantes différentes. Et on sait que, par exemple, en Corse, elle pose des problèmes parce qu'elle attaque les tomates. Ou un certain nombre de cultures comme ça, plutôt en serre, là où il fait bien chaud, où la température est bien constante. Et donc l'idée aussi, c'est de comprendre quelles sont les plantes qu'elles attaquent, comment est-ce que finalement elles s'adaptent finalement à leur nouveau milieu, et qu'est-ce qui peut être aussi un frein finalement à leur implantation, à leur développement.
Je peux toucher, oui. Ah, c'est très doux, oui. C'est très soyeux.
Ouais, c'est... Ouais. Et ici, vous avez les adultes, les papillons de nuit, donc c'est pas très beau. Ce n'est pas coloré, c'est terne, plutôt sombre, c'est un papillon de nuit. Mais qui est assez typique d'un certain nombre de ravageurs de cultures qui ont un cycle comme ça, avec des adultes qui vont se reproduire la nuit. D'ailleurs, du coup, tous nos animaux sont en cycle inversé, c'est-à-dire que là, en ce moment, dans les étuves, pour nous, c'est le jour, pour eux, c'est la nuit. Donc là, effectivement, vous avez des femelles. On sépare mâle et femelle, puisque comme on étudie aussi l'olfaction, les comportements, et que la phéromone sexuelle est émise par les femelles, il est important de bien les séparer pour ne pas perturber les animaux.
Voilà. L'observation.
Et du coup, ensuite, ça, on peut effectivement les passer en tunnel de vol ou faire de l'électrophysiologie pour faire du comportement et essayer de comprendre un petit peu les mécanismes neurobiologiques associés. Là, c'est un tunnel de vol typique. Donc en fait, c'est un appareil qui fait à peu près 3 mètres et demi de long, 1 mètre sur 1 mètre, donc
c'est un beau volume.
C'est un beau volume, c'est un appareil en fait qui nous permet de mettre les animaux d'un côté, de l'autre côté on met une source d'odeur, une phéromone ou un autre individu, et ça nous permet c'est du plexiglas, donc c'est complètement transparent, donc c'est fermé, ça nous permet de filmer ou d'observer avec nos yeux les animaux. Et derrière, ensuite, on essaie de voir un peu en termes de trajectoire, qu'est-ce qui se passe, si l'animal est attiré par l'odeur, traverse le dispositif ou pas. Donc là, c'est des appareillages d'électrophysiologie. Ça permet de connecter des électrodes sur les animaux. Donc en fait, c'est des électrodes extrêmement fines.
Il faut s'imaginer, nous, on a l'habitude de voir des électrodes sur des scalps, mais là, c'est vraiment à des dimensions
Exactement,
c'est
micrométrique, effectivement. On les étire d'ailleurs sous microscope pour avoir des choses extrêmement pointues. Globalement, ensuite, sous le microscope, là, on installe l'animal et on va planter cette électrode microscopique dans certaines parties du corps
pour ensuite avoir une activité électrique qu'on puisse enregistrer. On a effectivement toutes les activités de neurones, des potentiels d'action, des potentiels récepteurs qui peuvent être enregistrés et analysés. Et donc le couple comportement, ce qui nous permet de comprendre un peu en termes de mécanisme ce qui se passe chez les insectes.
Merci Céline Lozen pour ce reportage. Céline Bellard, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Je trouve que c'est un exemple qui illustre assez bien la problématique des espèces envahissantes, parce qu'on voit que c'est pas juste la menace d'espèces envahissantes seule, mais c'est vraiment une combinaison de menaces. Et on a le changement climatique qui intervient avec la pollution et qui favorise en fait la prolifération de cette espèce. Et effectivement, même si on a un rapport qui est principalement sur les espèces envahissantes, en fait il y a tout un chapitre qui est dédié aux principaux facteurs qui sont associés aux espèces exotiques envahissantes. Et effectivement, l'ensemble des menaces en fait agit pour fragiliser la biodiversité.
Philippe Grandcola.
Oui, en plus, dans le cas de cette noctuelle, on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, on reste un peu démunis. Hein, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser des méthodes de lutte biologique avec des micro-organismes un peu parasitaires qui vont diminuer localement ces populations noctuelles. Là, on essaye de comprendre les odeurs de communication, les phéromones, de manière à pouvoir faire des sortes de pièges à odeur qui attirent les individus qui sont capturés, par exemple, sur des papiers collants, comme c'est déjà le cas pour un certain nombre de papillons qui posent problème dans des cultures. Voilà. Mais une fois que ces populations sont installées, et puis en plus, comme elles ne sont pas complètement spécifiques sur une plante nourricière, évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut pas cibler non plus les méthodes de lutte. Donc là, on voit toute la dimension du problème que ce type d'espèce peut poser.
Oui, parce que cette noctuelle du coton qu'on entendait dans ce reportage, qui cause des dégâts sur de nombreuses cultures, on n'a peut-être pas assez insisté sur ce point, parce qu'on a beaucoup parlé des impacts sur l'environnement, mais les impacts des espèces exotiques envahissantes, elles sont aussi très importantes sur le plan humain. Il y a des impacts sanitaires et aussi beaucoup d'espèces qui sont néfastes pour l'agriculture, Céline Bellard.
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes qui peuvent être des insectes et qui vont en fait altérer les services de pollinisation, mais qui vont s'attaquer aussi globalement aux cultures, qui vont aussi être indiquer des maladies à ces cultures, et donc ça va avoir un impact économique important, et c'est aussi en fait ça met en péril la sécurité alimentaire. Donc
voilà, non seulement la production alimentaire, mais également la santé humaine. Le confort humain, mais à un point qui n'est pas seulement, comment dire, un confort de base. Quand on se trouve dans un environnement dans lequel il y a la petite fourmi Vasmania dont on parlait tout à l'heure, par exemple, encore une fois, en Nouvelle-Calédonie, il y a des environnements dans lesquels certaines personnes ne peuvent plus finalement progresser à pied ou se promener parce que elles souffrent des piqûres répétées de ces fourmis qui sont insupportables. Donc ça nuit bien entendu aux autres insectes, aux autres fourmis, ça nuit aussi aux petits vertébrés qui sont littéralement chassés par cette fourmi et ses piqûres insupportables, mais également aux humains. Donc là on se trouve vraiment dans des situations où quelque part il y a des environnements qui deviennent presque inhospitaliers, tout ça à cause d'une petite espèce finalement assez anodine, qui dans son écosystème d'origine ne posait aucun problème particulier, bien entendu.
Et puis il y a le cas emblématique aussi du moustique tigre, où on voit aussi une augmentation du nombre de cas de dengue en France métropolitaine. Donc on voit bien là toute l'importance de lutter contre ces espèces nocives. On a vu tout à l'heure que l'IPBES faisait donc un état des lieux de ce problème. Cette plateforme gouvernementale évalue aussi l'efficacité des mesures actuellement prises. Sont-elles suffisantes, Philippe Grandcola ?
Alors évidemment, oui et non. Il y a beaucoup de plans de lutte qui sont établis dans un certain nombre de pays. D'abord, tous les pays n'ont pas une législation en la matière. À peine, je crois, à peine un quart des pays listés par l'IPBES sont bien armés au plan réglementaire. Donc évidemment, quand il y a un transport d'espèces, il y a deux lieux à considérer. La source et puis le lieu d'implantation. Alors quelquefois, en plus, la source d'une invasion, c'est déjà une autre invasion. Typiquement, il y a par exemple certains insectes envahissants comme la fameuse coccinelle dite asiatique en France, elle est arrivée en partie via des invasions déjà en cours en Amérique du Nord. Voilà, avec des phénomènes de quelque part de mix génétique entre différentes souches envahissantes. Donc on est dans des situations complexes internationales avec des commerces de biens incessants, etc., où les réglementations jouent un rôle particulier. Puis après, bien sûr, il y a plusieurs phases avant d'en arriver arriver à une invasion généralisée, il y a d'abord les transports qui peuvent être relativement infructueux, mais ça veut dire qu'il faut effectivement effectuer en amont des contrôles de prévention sanitaire, ce que beaucoup de pays font dans beaucoup de ports ou d'aéroports, bien sûr. Ensuite, il faut préparer finalement les services spécialisés dans chaque pays à envisager de nouvelles invasions et à être attentif à lutter, puisque le rapport de l'IPBES montre que dans un certain nombre de cas, quand on est intervenu très précocement, on a pu stopper momentanément des invasions. Et puis après, bien sûr, c'est une question de gestion adaptative. Quand on a des invasions qui sont en place, ça veut dire qu'il faut avoir des plans de gestion des populations, exactement comme avec certaines espèces natives, si je puis dire, qui peuvent pulluler momentanément, comme par exemple le sanglier en France, qui n'est pas du tout une espèce exotique, évidemment, hein, mais qui est favorisée par des pratiques humaines un peu inconsidéré depuis plusieurs décennies. Donc on se retrouve après avec une espèce de plus dans son écosystème qu'il va falloir gérer au long terme, hein, comme c'est le cas aujourd'hui avec le moustique tigre, où on va devoir gérer la démoustication, on va devoir gérer des endémies de la dengue actuellement, mais peut-être dans le futur du virus Zika ou de la chikungunya, qui pour le moment, si je ne me trompe, sont encore inconnues à l'état endémique sur le territoire métropolitain français. Donc on le voit, le coût, c'est aussi un coût de gestion au quotidien, hein, sur toutes les espèces qui sont déjà là et qui posent problème de manière très variée.
Céline Bellard, contre ces espèces nocives, il y a donc trois lignes de défense, la prévention, l'éradication et le confinement. La prévention, c'est la meilleure option.
La prévention, oui, c'est la meilleure option parce que c'est en fait l'option qui permet de limiter le coût ensuite de la gestion de ces espèces exotiques envahissantes. Donc à partir du moment où on essaye de limiter les nouvelles introductions d'espèces, c'est là où on est le plus efficace déjà pour éviter un impact écologique, mais c'est aussi là où c'est le moins coûteux. Donc il faut évidemment privilégier cette solution dans la majorité des cas. Et c'est pour ça que détecter rapidement les nouvelles introductions d'espèces, d'évaluer si elles risquent d'avoir un impact et de proliférer, c'est aussi des mesures en fait qui sont indispensables dans la lutte aux invasions biologiques.
Concrètement, une mesure de prévention qui fonctionne bien, qu'est-ce que c'est, Philippe Brancola?
Alors typiquement, en fait, surveiller en fait des produits à risque, hein, quand on importe des denrées alimentaires, des plantes ornementales, des animaux d'élevage, etc. Évidemment, ils doivent être soumis à des contrôles. Tout d'abord, il y a une réglementation. On n'importe pas n'importe quelle espèce, évidemment. Il y a des espèces qui sont aussi protégées dans leur aire d'origine, donc il n'est pas question de les transporter, sans raison ou de les capturer sans raison. Et donc ces contrôles, en fait, sanitaires sont extrêmement importants. Bien évidemment, le problème, en fait, c'est d'avoir les moyens pour les mener. Et il y a des organismes, notamment comme aussi, qui gèrent la suite de ces invasions, comme l'Office français de la biodiversité, qui auraient besoin de moyens supplémentaires pour arriver à gérer toutes ces questions. Parce que il y a vraiment une coordination au niveau national qui doit être mise en place et puis après déclinée dans toutes les régions et dans tous les lieux où ces espèces posent problème. Donc c'est vraiment un problème qui va ensuite s'insinuer dans tous les recoins de la société, si je puis dire, hein, et qui va demander une gestion attentive. On est devant la gestion de la biodiversité, hein, qu'on considère toujours comme allant de soi, hein, comme si elle devait nous profiter, alors qu'en réalité, si on intervient en amont, on peut être obligé d'intervenir en aval de manière assez importante, précisément comme dans le cas des espèces exotiques.
Et comme vous disiez, 83% des pays n'ont pas de législation nationale ou de régulation dirigée spécifique vers la prévention et le contrôle des espèces exotiques invasives. Alors, dans le cas, si une espèce exotique arrive malgré tout dans un nouvel environnement, que faut-il faire avant qu'elle ne se propage? Quelles sont les stratégies en question, Céline Bellard?
Oui, d'ailleurs, je voudrais juste rajouter que même 50% des pays n'ont pas de financement ou de budget alloué à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Ils ne font rien.
Voilà. Puisqu'ils n'ont pas d'argent pour ça. Donc ça, je trouve que c'est aussi un chiffre qui parle un peu sur comment est considérée aujourd'hui la lutte contre les espèces envahissantes. Et donc, une fois que l'espèce, finalement, elle est établie, quelle solution on a? Eh ben, c'est de limiter, en fait, sa propagation au maximum par des mesures de contrôle. Donc là, ça dépend vraiment de chaque espèce, en fait, et du contexte local. Ça peut être de l'arrachage, ça peut être des mesures de lutte biologique, effectivement, ça peut être des mesures chimiques, en fait. Et donc, on a quand même des mesures d'éradication aujourd'hui qui sont testées et qui sont évaluées. Et par exemple, dans les îles, qui sont les habitats qui sont aussi particulièrement vulnérables aux invasions biologiques, en général, les mesures d'éradication sur les mammifères, c'est 90% de taux de succès. Donc on voit quand même qu'on est assez efficace quand on met les moyens logistiques et financiers pour éradiquer ces espèces.
Philippe Grandcola.
Oui, le problème, en fait, c'est en milieu continental ou en milieu marin, hein, où là, en fait, on va avoir un phénomène de vase communicant, c'est-à-dire que dès qu'on va essayer de lutter contre des zones d'invasion, évidemment, on est dépendant des zones d'invasion voisines à partir desquelles des dispersions peuvent se produire à nouveau. Donc là, on est dans une situation qui va finalement très souvent virer à l'invasion généralisée, dans laquelle, là, finalement, on va simplement avoir un contrôle de ces espèces, comme avec n'importe quelle autre espèce qui peut pulluler dans des écosystèmes et nous poser problème. Mais effectivement, il est important d'intervenir au plus tôt, comme le disait Céline, c'est la seule manière d'arriver à limiter les coûts. Et effectivement, ça suppose des moyens, ça suppose des contrôles en amont, ça suppose aussi de la participation de la part de pas mal de secteurs de la société. L'IPBES a aussi mis un peu l'emphase sur le fait de prendre en compte et de favoriser l'émergence de codes de bonne conduite. Quand on est un horticulteur, quand on est un jardin botanique, quand on est un zoo, quand on est un importateur de produits alimentaires, etc., on a des codes de bonne conduite qui doivent être écrits, qui doivent comporter toutes les précautions qu'il est indispensable de prendre. Et effectivement, l'idée, c'est pas seulement de réglementer d'une manière punitive, l'idée, c'est aussi de faire comprendre à toutes ces parties prenantes qu'il est dans l'intérêt général de ne pas importer d'espèces de manière non intentionnelle ou d'importer des espèces intentionnellement qui après vont se révéler être un problème simplement on les trouve très belles et propices à la culture dans les jardins. Quelquefois peut-être dans un jardin, il vaut mieux utiliser les espèces natives qui sont elles aussi très belles et parfaitement adaptées à cet environnement plutôt que d'importer une espèce exotique certes un peu amusante mais qui va se révéler un énorme problème dans les décennies à venir.
Oui, parce que pour les plantes exotiques envahissantes, l'éradication est plus difficile, notamment avec la longévité des graines, tout ça. Ce que vous disiez un instant sur l'IPBES, c'est une question que je me posais, est-ce que l'IPBES ne fait pas face aux mêmes problématiques que le GIEC vis-à-vis de sa mise en pratique? C'est-à-dire qu'on a des rapports qui sont super solides, les gouvernements disent que c'est génial, mais là où le bât blesse, c'est la réaction des États, ou plus exactement la non-réaction des États.
Oui, ben malheureusement, je pense que dans beaucoup de cas, et en particulier dans la culture occidentale, mais qui aujourd'hui est finalement mondialisée, hormis là où la nature est gérée directement par des peuples autochtones, je pense qu'on a un peu la même vision de la biodiversité, de l'environnement. C'est une sorte de finalement de corne d'abondance ou de poubelle insondable, selon les points de vue, dans lesquels on peut prélever à volonté et qui assure des services du type l'eau, la régulation climatique, la nourriture, et qu'on pense finalement être immanent et arriver quel que soit l'usage de l'environnement que l'on fait. On le voit aujourd'hui avec la notion de limite planétaire, finalement les humains se rendent compte que ces milieux naturels sont pas des cornes d'abondance absolues, ils peuvent être mis en défaut par des manipulations humaines. Et là le souci, c'est que finalement ce qu'on considérait comme gratuit allant de soi, on va devoir le payer. Et c'est ce qui se passe avec les espèces exotiques. On introduit des espèces, elles bouleversent les écosystèmes, elles nous gênent dans notre production alimentaire, dans notre confort, dans notre santé, et donc il va falloir payer à mettre en place des dispositions au niveau gouvernemental, au niveau régional, au niveau municipal, au niveau commercial, mettre en place des dispositions qui vont être coûteuses, qui vont demander des personnes, des effectifs, de l'argent pour gérer ces questions qu'on considérait finalement comme allant de soi naturellement. Des moustiques, il y en a toujours eu. Il y a des prédateurs de moustiques, des poissons, des oiseaux, d'autres insectes. Si on introduit de nouveaux moustiques, en particulier dans des milieux où ces prédateurs font défaut, dans des milieux urbains, ben là, on va devoir gérer cette question-là. Effectivement, il n'est plus question de laisser la nature suivre son cours.
Céline Bellard.
Oui, effectivement, je pense que la mise en place aussi de la gestion sur les espèces exotiques envahissantes, elle est difficile parce qu'en fait, on a l'impression que les espèces exotiques envahissantes, c'est une espèce par-ci, une espèce par-là, que c'est pas vraiment un problème qui est global. On se rend pas compte que en fait, c'est des milliers d'espèces et que même si l'impact, il est local pour telle espèce, en fait, le cumul de tous les impacts de ces espèces fait qu'on va avoir besoin d'une réponse qui est vraiment globale et qui aussi à travers les différents pays. On peut difficilement s'attaquer à la question des invasions biologiques juste à l'échelle française. Il faut évidemment le faire à l'échelle européenne et à l'échelle internationale parce que les espèces exotiques envahissantes, elles se préoccupent pas du tout des frontières administratives et en fait on est en général soumis aux introductions d'espèces des autres pays.
Bien, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure, nous avoir fait prendre conscience de l'ampleur du problème. Merci Céline Bellard, merci Philippe Grandcola. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbo et sa chronique avec Science.
Aujourd'hui, on se penche sur les effets de certains additifs alimentaires sur la santé, ceux des émulsifiants. Et on les retrouve partout, dans des crèmes glacées, dans des sauces industrielles, des gâteaux, les pâtisseries, biscuits, dans des céréales du petit déjeuner ou encore dans certains plats préparés. Parce qu'ils ont la capacité de mélanger ensemble deux éléments qui ne le feraient pas facilement et naturellement, exemple le plus simple, dans une mayonnaise industrielle, l'huile ne se sépare pas du vinaigre et c'est grâce aux émulsifiants. Ce qu'on savait jusqu'à maintenant, c'est que les aliments ultra transformés contiennent la plupart du temps des additifs. Ensuite, que les émulsifiants font partie des additifs très utilisés. Et dernier point, que de plus en plus d'études, 75 au total, font le lien entre consommation d'aliments ultra transformés et risque accru de développer certaines pathologies comme le diabète, l'obésité ou des maladies cardiovasculaires. Seulement, pour comprendre qui est le coupable, qui est la cause, eh bien, impossible de mener un essai clinique. On ne peut pas prendre des êtres humains, les forcer à manger tel ou tel aliment et attendre patiemment pendant plusieurs années, voire des dizaines d'années, qu'il ou elle développe une pathologie. Alors, on réalise ce qu'on appelle des études observationnelles. Et la cohorte française qui s'occupe de cela, c'est Nutrinet Santé. Elle a permis la publication d'une toute nouvelle étude sur l'association entre émulsifiants et maladies cardiovasculaires. Mathilde Touvier est directrice de recherche à l'INSERM et investigatrice principale de Nutrinet Santé.
Alors, nous avons lancé l'étude Nutrinet Santé en 2009 et donc depuis cette date, nous enregistrons les consommations alimentaires de plus de 100 000 adultes de la population française et donc les participants déclarent régulièrement tous les aliments, les boissons, les confiseries donc qu'ils ont consommés, allant même jusqu'à nous donner pour les aliments industriels la marque des produits consommés. Et ça nous a vraiment permis de regarder finement la composition. Pour un biscuit, on savait que c'était pas n'importe quel, c'était tel ou tel biscuit et donc on pouvait avoir la composition en additif de ces produits-là. Donc, ça nous a permis de mesurer, d'avoir des mesures quantitatives hein, des expositions aux émulsifiants dans cette population d'études. Et après, les participants sont suivis au fil du temps. Et donc, au départ, tout le monde est en bonne santé et puis certains vont développer au fil du suivi une pathologie, ici une pathologie cardiovasculaire par exemple. Et donc, on a pu mettre en relation le fait de consommer plus ou moins de ces émulsifiants avec le risque plus ou moins élevé de développer une maladie cardiovasculaire.
Cela concerne à la fois les maladies coronariennes comme les infarctus et les maladies cérébrovasculaires comme les AVC. Dans cette étude, la consommation de deux types d'émulsifiants est pointée du doigt. Ceux à base de cellulose, notamment de carboxyméthylcellulose, et les mono- et diglycérides d'acide gras. Alors, est-ce que ce risque est chiffré et est-il fort ou faible? En réalité, le chiffre de ce surrisque a assez peu d'importance. Et il faut le dire d'emblée, il est beaucoup moins fort que le risque de cancer du poumon quand on est fumeur, par exemple. Le problème, c'est l'addition de ces petits risques autour de l'alimentation ultra transformée. Et donc, la recommandation, c'est d'en limiter la consommation.
On devrait éviter au maximum de consommer trop d'aliments dits ultra transformés qui contiennent des additifs dits cosmétiques dont on n'a pas vraiment besoin pour la santé humaine, hein, qui sont là pour améliorer la texture, le goût, la couleur, etc. Et donc, en limitant ces consommations, on met toutes les chances de notre côté pour prévenir le risque de maladies chroniques. Comme toujours en nutrition, on ne parle jamais d'interdiction formelle, hein, ou très rarement. Là, l'idée, ce n'est pas de supprimer tous ces aliments ou tous les additifs, c'est plus d'essayer autant que possible de plutôt cuisiner maison, de limiter les additifs dont on pourrait se passer et les aliments ultra transformés.
C'est la toute première étude à mettre en évidence cette association. Pour ce qui est du lien de causalité directe cette fois, des premières études chez l'animal et de courts essais chez l'humain montrent que certains émulsifiants comme le carboxyméthylcellulose provoquent une perturbation du microbiote et son inflammation. Pour aider la recherche à accélérer sur ces questions, vous pouvez intégrer cette cohorte et devenir un Nutrinote. C'est à retrouver sur le site de Nutrinet Santé.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Mariam Ibrahim, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Audrey Guédil. Vous pouvez nous écouter partout en podcast, sur le site de franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.